Bonsoir à tous. Une nouvelle tuerie dans un établissement scolaire aux États-Unis, 10 morts et 10 blessés au Texas, selon un bilan provisoire. Précision dans un instant de Marco Voltaire. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban martèle sa devise au premier jour de son troisième mandat. Nationalisme et souverainisme quittent à guerroyer contre Bruxelles, correspondance de Budapest de Florence Labruyère. Elle n'est plus Le Pen, la mue de Marion Maréchal qui s'ouvre une voie pour 2022, explication de Stéphane Robert. À Marseille, le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot lance « Nous sommes devenus une arme de destruction massive contre la nature. Mobilisation générale pour sauver la biodiversité », invitée de cette édition, Annabelle Jaeger, vice-présidente de la Fondation pour la nature et l'homme. 10 morts et 10 blessés suite à une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas. C'est un élève de cet établissement qui aura ouvert le feu sur les siens avec les armes de son père. Les victimes sont en grande majorité des lycéens. Selon le shérif local, le tireur a laissé des explosifs dans une maison et un véhicule. Les précisions de Marco Voltaire à New York.
À peine 3 mois après la terrible fusillade qui avait fait 17 victimes dans le lycée de Parkland en Floride, voilà que les États-Unis se retrouvent une nouvelle fois à compter leurs morts. Cette fois, c'est dans une école du Texas, au sud de Houston, qu'un élève a ouvert le feu. McKenna était assise dans sa salle de classe quand une alarme incendie s'est déclenchée vers 8h du matin.
On était d'abord confus parce que nous avions une alerte il y a quelques semaines. On a descendu les escaliers normalement, on est sortis. Notre principale est arrivée vers nous en courant, elle nous a dit de courir. On a couru pensant qu'il s'agissait d'un incendie. On a traversé la rue, puis on a été évacués. Ma tante m'a alors appelée pour me dire qu'il y avait une fusillade. C'est là que j'ai paniqué. Mais personne ne savait ce qui se passait.
Le tireur, qui apparemment fréquentait l'école, est entre les mains de la police. Une autre personne a été arrêtée, mais pour l'instant, rien encore sur les motivations, les raisons de ce nouveau bain de sang. Cela dure depuis trop longtemps dans notre pays, a rapidement déclaré Donald Trump dans une allocution. Le président qui célébrait encore le lobby des armes, la NRA, il y a à peine quelques semaines. À Santa Fe aussi, des élèves avaient manifesté depuis la tuerie de Parkland pour demander plus de contrôle sur les armes, mais quasiment rien n'a changé. Les États-Unis vivent donc au rythme d'une fusillade dans une école par semaine, celle de Santa Fe, la 22e depuis le début de l'année.
Le régime syrien ciblé à Hama, plusieurs explosions entendues dans l'enceinte de l'aéroport militaire de cette ville du centre du pays. 11 membres des forces gouvernementales ou de groupes alliés à Damas tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui prétend qu'il y a également des dizaines de disparus. Des milliers de personnes ont scandé des slogans hostiles aux autorités israéliennes et américaines dans les rues d'Istanbul, en présence du président turc et du premier ministre palestinien Rami Abdallah. Manifestation orchestrée par Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli ce vendredi les membres de l'Organisation de la coopération islamique. Un projet de communiqué appelle à fournir, je cite, « une protection internationale au peuple palestinien ». En début de semaine, 62 Gazaouis sont tombés sous les balles de l'armée israélienne. 2700 autres ont été blessés dans le cadre de la marche du retour. Ils étaient encore 1 000 000 aujourd'hui à manifester le long de la frontière avec Israël. La conférence épiscopale chilienne annonce que les 34 évêques reçus aujourd'hui à Rome ont remis leur démission au pape, tout en demandant pardon pour la douleur causée aux victimes d'actes pédophiles sur mineurs. Le Vatican semble avoir changé d'approche. Olivier Tosseri nous appelle de Rome.
Les prises de distance dans les scandales de pédophilie ne suffisent plus. Le Vatican, comme les fidèles, demande que la hiérarchie des églises concernées prenne ses responsabilités. C'est ce qu'ont fait les évêques chiliens en démissionnant en bloc, du jamais vu. Ils ont accompagné cette démission d'un acte de contrition et de repentance. Nous voulons demander pardon pour les douleurs causées aux victimes et pour les graves erreurs et omissions que nous avons commises, ont-ils déclaré. François leur a adressé ce jeudi une courte déclaration annonçant des changements à court, moyen et long terme pour établir la justice. Pas de précision néanmoins sur la nature des sanctions éventuelles. François évoque les crimes et le douloureux et honteux constat d'abus sexuels sur mineurs, d'abus de pouvoir d'une partie du clergé. Une prise de position qui tranche avec sa défense lors de son voyage au Chili en janvier dernier d'un prélat justement impliqué dans le scandale, ce qui avait suscité une virulente polémique. Il avait depuis fait son mea culpa c'est maintenant chose faite pour les évêques chiliens.
L'Italie politique, plus de 90% des militants du mouvement 5 étoiles ont approuvé le contrat de gouvernement établi entre le parti antisystème et la Ligue formation d'extrême droite dans un vote en ligne organisé ce vendredi. Le document de 40 pages propose plusieurs milliards d'euros de réduction fiscale, une hausse des dépenses publiques en faveur des plus pauvres et l'abandon d'une réforme des régimes de retraite. La Ligue a elle aussi consulté ses électeurs, résultat dans le week-end. Viktor Orban a inauguré aujourd'hui son troisième mandat. Son gouvernement a prêté serment hier et aujourd'hui le Premier ministre a fixé le cap et livré à ses recrues, soigneusement choisies, une feuille de route et quelques mots-clés. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est dans le décor rouge et or du Parlement que Viktor Orban a présenté son équipe de 13 ministres, dont 7 étaient déjà en place dans le gouvernement sortant. Le Premier ministre hongrois a indiqué qu'il envisageait de rester aux commandes jusqu'en 2030. Et il a donné les grandes lignes de son programme qui tient en deux mots, nationalisme et souverainisme. Viktor Orban confie au ministre de la Justice, Laszlo Trocsányi, la mission de préserver la souveraineté nationale face au droit européen. La période à venir va être très animée, a ajouté le Premier ministre, signifiant par là qu'il était prêt à croiser le fer sur ce sujet avec Bruxelles. Si le chef de la droite hongroise crée un nouveau portefeuille, celui de l'innovation, il entend maintenir un cap ultra-conservateur. À la tête du principal ministère, qui chapeaute l'éducation, la santé et la culture, Viktor Orban a nommé une personnalité controversée, le médecin Miklós Kessler. Ce nouveau ministre, connu pour ses vues réactionnaires, a mis en doute la théorie du Big Bang. Il a aussi déclaré que 80% des Nigérians avaient le sida, ce qui a entraîné de vives protestations de l'ambassade du Nigeria à Budapest. Et selon le nouveau ministre, 70% des maladies mortelles pourraient être évitées en étant un bon chrétien et en observant les 10 commandements.
Il est presque 22h07, vous écoutez le journal de France Culture. L'homo politicus du 21e siècle se doit d'être une marque. Il arrive qu'il faille la toiletter, la remettre au goût du jour. À ce chapitre, l'ancienne députée Front National du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a fait le nécessaire, Stéphane Robert.
Terminé le nom Le Pen. Marion Maréchal a supprimé de ses comptes Twitter et Facebook le patronyme qui la rattachait à son grand-père et à sa tante. Une décision qui est dans la continuité de ce qu'elle a réalisé depuis l'annonce de son retrait de la vie politique il y a un an. Le premier signe qu'elle n'avait pas complètement décroché a été la création au mois de septembre 2017 d'un journal mensuel, L'Incorrect, dont plusieurs des fondateurs sont des proches de la jeune femme. C'est d'ailleurs ce journal, L'Incorrect, qui organise le 31 mai prochain une soirée intitulée « Débranchons mai 68 » et dont l'une des invitées vedettes est précisément Marion Maréchal Le Pen. Ensuite, on l'a vu au mois de février, au congrès du Parti Républicain aux États-Unis, où elle a fait une intervention très remarquée, rendant hommage à Donald Trump et souhaitant rendre la France aux Français. Par ailleurs, Marion Maréchal Le Pen est actuellement en train de créer son école, une académie des sciences politiques à Lyon, qui est censée former les futures élites politiques de droite. On peut dès lors imaginer un probable retour sur la scène politique à brève échéance. Marion Maréchal a sans doute fait ce constat, comme d'autres, que sa tante Marine Le Pen s'est durablement décrédibilisée lors du débat d'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron et qu'elle ne sera peut-être pas en mesure de se représenter en 2022. Et du coup, elle se prépare en se débarrassant d'un patronyme Le Pen qui rappelle un peu trop la petite PME familiale qu'était jusqu'ici le Front National.
Stéphane Robert, le défenseur des droits Jacques Toubon s'est saisi des allégations de discrimination visant un restaurant parisien chic et annonce l'ouverture d'une enquête. Selon les témoignages d'anciennes salariées, il existerait une pratique discriminatoire consistant à refuser la clientèle d'origine maghrébine, africaine et les femmes portant le voile. Les syndicats de la SNCF, déboutés par le tribunal de grande instance de Bobigny, de leur demande en référé de paiement de certains jours de repos des grévistes. L'affaire sera jugée sur le fond le 31 mai prochain. Aucune raison de changer de stratégie quant à la grève selon l'intersyndicale. Une centaine d'acteurs de centres sociaux des Bouches-du-Rhône mobilisés aujourd'hui à Marseille pour alerter sur la baisse de leurs moyens. Les 52 centres sociaux associatifs du département qui se définissent comme des équipements structurants pour les quartiers disent subir de plein fouet le gel des contrats aidés. Le chef de l'État est censé annoncer mardi des mesures concrètes pour améliorer la vie dans les quartiers difficiles et non un plan banlieue. La présidente de la Ligue contre la violence routière demande, je cite, une sanction intraitable à l'encontre du ministre de l'Intérieur après que Gérard Collomb a refusé de soutenir la future baisse de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Chantal Perrichon demande à Matignon de dessaisir le ministre de ce dossier. Édouard Philippe n'a pas attendu cette colère pour recadrer Gérard Collomb en marge d'une visite à l'École nationale d'administration à Strasbourg. Au futur diplômé de l'ENA, le Premier ministre a convoqué Marc Bloch, adressé conseils et recommandations et lancé « La démocratie peut s'effondrer ». De la gravité, encore de la gravité à Marseille, où cet après-midi, le ministre de la Transition écologique a présenté sa stratégie nationale de mobilisation pour la biodiversité en grande difficulté. L'humanité, a-t-il lancé, doit faire la paix avec la nature et la France doit montrer la voie. Fin de citation. Nicolas Hulot a arrêté un calendrier qui comprend une consultation citoyenne jusqu'au 7 juin, un comité interministériel le 28 juin. Nous sommes comme convenu en ligne avec la vice-présidente de l'ex-fondation Nicolas Hulot, devenue Fondation pour la nature et l'homme. Bonsoir Annabelle Zéger.
Bonsoir.
Nicolas Hulot a eu des propos alarmants. C'est pas une première en matière de défense de l'environnement. Jacques Chirac, en 2002, avait lancé « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était donc en 2002 et la phrase fait encore référence. Gardons de cet après-midi peut-être, Annabelle Zéger, soyons les réparateurs du vivant. Quel impact, selon vous, prêtez à ces formules choc?
Écoutez, j'espère que cet impact va être fort et qu'il va contribuer à mettre l'enjeu de la biodiversité tout en haut de l'affiche, tout en haut de l'agenda politique, parce que c'est un peu le problème du sujet de la nature, de la biodiversité, c'est que c'est un sujet qui nous concerne tous, dont on dépend au quotidien pour vivre, pour être en bonne santé, pour respirer, pour manger, pour se soigner, plein de choses comme ça. Donc une dépendance très forte avec la biodiversité, et pourtant, comme on a un peu perdu cette connexion avec la nature, eh bien on constate son déclin dramatique tous les jours, des oiseaux, des insectes, d'espèces un peu plus emblématiques. Et pour autant, on s'en inquiète peu. Je pense qu'un des problèmes, c'est que ce n'est pas encore en haut de l'agenda politique. Et donc j'espère très fortement qu'il va y avoir beaucoup de réponses, que les citoyens vont se saisir de ces questions, qu'ils vont répondre avec leur cœur, avec leurs préoccupations, pour que les politiques eux-mêmes réalisent à combien c'est un sujet majeur.
Alors on en revient aux politiques, je vois bien que vous y faites allusion et de manière récurrente. Et il faut, selon le ministre, cesser notre consommation de terres agricoles, modifier la politique agricole commune. Est-ce bien raisonnable de prétendre s'attaquer à ce genre de montagne?
Malheureusement, c'est juste qu'on n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que quasiment les deux principales causes d'érosion de la biodiversité, eh ben, c'est bien notre système alimentaire, donc tant notre façon de consommer les uns et les autres que notre modèle agricole qui l'impacte trop fortement, et l'artificialisation des terres, c'est-à-dire à quel point donc on passe d'un état de nature à un état artificiel, d'une terre agricole à un parking, pour faire court. Et c'est bien les deux plus grosses menaces qui pèsent là-dessus. Donc si on ne s'y attaque pas, on est à côté de la plaque.
Annabelle Zéger, et si la préservation de la biodiversité était source d'emploi?
Elle est source d'emploi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que directement, oui, et parfois indirectement, toute notre économie repose sur les ressources naturelles.
Alors il faudrait peut-être le présenter comme cela.
Eh bien, pourtant, on est nombreux à le faire quotidiennement, de le présenter comme cela et rappeler notre dépendance à la nature. Mais je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est à presque à 80% des urbains aujourd'hui et que clairement, on est un peu déconnecté de cette nature. On a besoin aussi d'une très forte éducation pour tous les publics, à tous les niveaux, pour nous rappeler cette connexion et cette dépendance totale vis-à-vis de la nature.
Ce soir, France Nature Environnement implore ou presque le gouvernement pour qu'il entende son propre ministre. Et vous ?
Oui, j'implore de la même façon, c'est triste à dire. Et surtout, si j'ai bien compris là, dans la mécanique à venir, il va y avoir donc un passage en comité interministériel le 28 juin prochain. Et en effet, pour moi, c'est vraiment un peu le coup fatal, positif ou pas. C'est-à-dire que soit effectivement l'ensemble des ministres et des préoccupations de grandes infrastructures, de logement, de santé, d'agriculture se saisissent de ces questions, soit on est toujours à côté.
Annabelle Zéger, est-ce que selon vous, Nicolas Hulot est seul et se sent esselé au gouvernement?
Oui, je vous cache pas que je le sens un petit peu seul. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une revendication, les ONG, très forte, qui va peut-être vous paraître anecdotique, mais pour nous elle est plus que symbolique, et ça vous allez voir, ça répond directement à votre question. On demande à ce que la biodiversité, dans la réforme constitutionnelle à venir, rentre dans l'article 1 de la Constitution, comme l'enjeu climatique, parce qu'on est convaincu que soit, encore une fois, cette question de la biodiversité arrive tout en haut de la Constitution, de l'agenda politique, et donc va découler sur l'ensemble des ministres, sur l'ensemble des politiques, soit s'il est porté par un seul, quelle que soit sa conviction très forte, ça ne suffira pas.
Merci Annabelle Jaeger, vice-présidente de la Fondation Nicolas Hulot. Un dernier mot, Marseille accueillera en 2020 un congrès mondial de la nature. Un Boeing 737, on a eu les dernières informations à l'instant, s'écrase au décollage de l'aéroport de La Havane, 104 passagers à son bord, aucun bilan fiable à l'heure qu'il est. Temps ensoleillé dès demain matin sur une bonne partie du pays avec un risque d'averse sur le relief. Température minimale comprise entre 5 et 14 degrés. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, à la technique Florent Bujon.